Salut à toi, camarade. Salut à toi, fidèle auditeur, fidèle auditrice d'Achaïra. Bienvenue sur La Clé des Ondes, la radio associative bordelaise qui se mouille pour qu'il fasse beau.
La Clé des Ondes, c'est sur le 90.1 ou sur Internet, lacdo.org.
Achaïra est animé par les membres du Cercle Libertaire, Jean Barruet, de la Fédération Anarchiste.
Achaïra, c'est l'émission mensuelle où des anards de Gironde pollinisent les idées libertaires.
Et c'est de 20h à 22h, tous les premiers lundis du mois.
Alors, notez-le sur vos agendas. Salut, vous êtes sur Achaïra et c'est la 214e édition aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour cette édition de rentrée avec Fabienne.
Bonsoir.
Esmeralda.
Bonsoir.
Thierry.
Soir bon.
Progrès.
Bonsoir.
Philo, bonsoir aux manettes de l'émission pour accueillir nos invités.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Ali.
Bonsoir Marina.
Bonsoir Maman.
Bonsoir Myriam.
Voilà, donc pour cette édition, nous présenterons la chronique d'André, sa chronique de la désobéissance sur Kate Austin. Le thème central de cette édition de rentrée sera l'actualité bordelaise de l'été, avec les vagues d'expulsion orchestrées par la nouvelle préfète, celle qui a fait ses armes dans la grande expulsion de ce qui est appelé la jungle de Calais. Pour cela, nous recevrons des victimes de ces expulsions, des soutiens qui se sont organisés cet été pour l'accueil de ces centaines de personnes jetées sur le dur pavé bordelais. Puis, nous verrons dans un troisième temps les perspectives de mobilisation et les réflexions politiques sur ces expulsions et la tentative de récupération politicienne par cette même préfète et par le parti au pouvoir en vue de la prise des municipalités locales. Bordeaux au premier chef. Puis nous passerons à l'éphéméride, concocté par Fabienne et Thierry autour des libertaires ou de l'actualité pour le mois d'octobre des expulsions, si on a le temps. L'actualité internationale qui suivra sera marquée par les expulsions de squats sur Exarchéa, et ça fera grandement écho à notre thème du jour. Et nous nous quitterons enfin avec quelques rendez-vous de l'agenda. Voilà donc tout de suite la chronique de la désobéissance.
Chronique de la désobéissance.
Chronique de la désobéissance.
Chronique de la désobéissance.
Kate Austin. L'enthousiasme d'Aurélien Roulant dans sa présentation de Kate Austin, paysanne, anarchiste et féministe, fait plaisir à lire. C'est par le moyen de la toile, en bon rat d'Internet, qu'Aurélien a été déniché la biographie et quelques textes de Kate, 1864-1902, qui, donc, mourut encore jeune de la tuberculose. Ces textes sont essentiellement des lettres ou des articles envoyés aux publications libertaires et qu'Aurélien a entrepris de traduire. Aux États-Unis, les journaux libertaires de l'époque, lieu d'échange, préfiguraient nos réseaux sociaux actuels. Le personnage de Kate, parce que femme, et de plus paysanne vivant selon les circonstances de sa vie au fin fond des campagnes du Missouri, de l'Iowa ou de l'Illinois, donc le personnage de Kate n'avait pas suscité jusqu'alors l'intérêt des historiens. Il faut dire qu'Aurélien, lui, voudrait mettre en avant la militance qui s'exprime hors des normes habituelles, même chez les anarchistes. Il nomme les gays, les trans, les handicapés, les Africains, les Asiatiques, etc. Pour autant, les choses sont en train de changer. Kate et son compagnon, Sam, basculèrent dans l'anarchisme, scandalisés qu'ils furent par la pendaison, en 1887, de ceux que l'on nomme les martyrs de Chicago, des militants incontestablement innocents des crimes qu'on leur reprochait. La maison, toute simple, au milieu des champs où habitaient Kate et sa famille, était grande ouverte aux visiteurs. Emma Goldman y séjourna à au moins deux reprises et y vint également comme conférencière. Et c'est là, après sa rude journée de fermière et de mère de famille, elle eut cinq enfants, que Kate Austin écrivait aux journaux. Le courrier était porté à dos d'âne jusqu'au plus proche bureau de poste situé à quelques 4 kilomètres et d'où on ramenait lettres, livres et publications. Si Sam était surtout orateur, Kate avait la plume facile et un don naturel, disait-elle, qualité qu'elle travailla pour s'améliorer et acquérir un style simple dans l'expression, sincère et passionné dans la sensibilité. Maintenant, je vais vous donner quelques citations des textes de Kate. À quand une traduction intégrale de tous ses écrits ? Oui, ce livre est essentiellement un choix de ses textes. Donc, il y a des siècles que les théologiens débattent de la question de savoir si la femme ne manquerait pas d'âme autant que de cerveau. Et certains d'entre eux ont admis n'avoir pu trouver aucune trace de l'existence d'une âme chez la femme. Ils auraient certainement eu plus de succès s'ils avaient cherché un cerveau. Une autre. Ainsi que je l'ai entendu l'autre jour par un homme intelligent, les femmes sont comme des anges, elles ont été créées pour que l'homme, en prenne soin. J'ai toujours remarqué que les hommes, qui parlent de cette façon, ne se sentent jamais blessés lorsque l'ange coupe le bois, traie la vache et allume le feu par un matin glacé. Une autre encore. Nous n'avons qu'à faire un retour sur nous-mêmes pour reconnaître immédiatement combien nous sommes redevables de ce que nous sommes aux agitateurs, aux propagandistes. Si nous n'avions jamais entendu nous-mêmes des voix criant dans le désert, des voix qui nous ont donné force, courage et espérance, combien d'entre nous seraient aujourd'hui dans les rangs avancés de l'avant-garde de la Révolution ? Et à propos de sexe, beaucoup, parmi les plus nobles et les meilleurs, meurent graduellement à petit feu pour n'avoir pas pu s'associer librement, naturellement, au gré de leur fantaisie momentanée. De peur d'être immoraux, ils sacrifient un besoin naturel, une fonction normale de leur être, dont l'exercice est absolument nécessaire à leur développement régulier, à leur bonheur et à leur santé. Et encore, s'il est vrai que les hommes varient en capacité de raisonner, aucun homme ne mérite d'être mis à part de ses semblables comme philosophe pour le simple fait qu'il tient presque toute sa connaissance de ses semblables, et même le plus humble des sauvages ou des paysans est capable d'enseigner quelque chose en ce qui concerne les choses qu'il comprend le mieux. Reconnu par le milieu libertaire de son temps, il est certain que Kate Austin mériterait une place aux côtés de Louise Michel, d'Emma Goldman et des autres que nous admirons. Je vous parlais de Kate Austin, paysanne, anarchiste et féministe, d'Aurélien Roulant, c'est aux éditions du Monde Libertaire 2019. Vous pouvez retrouver ce texte en son entier sur delaDésobéissance.org. Je vous salue à toutes et à tous.
Le rebond sur la chronique d'André. Alors juste une précision, André nous a demandé de rectifier parce qu'il dit que son site est .org alors qu'en fait c'est .fr. Donc c'est bien à souligner. Oui, un rebond, en fait c'est un prolongement. J'avais envie de vous lire un extrait d'un écrit de Kate Austin sur, à propos des prisons, que je trouve assez fort sur le plan politique. Elle dit « Que notre système soit choquant et repoussant, éprouvé par les efforts que des nombreux hommes et femmes sages font pour réformer le système pénitentiaire et faire que son environnement soit plus plaisant. Mais leurs efforts doivent être comparés à ceux de ces individus myopes qui, au temps de l'esclavage, dépensèrent toute leur énergie à essayer d'abolir les maux de l'esclavage, ne voyant pas que l'esclavage lui-même continuerait à apporter continuellement le mal aussi longtemps qu'il existerait. De même avec nos prisons. Notre prétendue classe criminelle n'étant rien d'autre qu'un effet, et la cause en est le gouvernement, qui, depuis des temps immémoriaux, s'est débrouillé pour avilir et voler la masse des hommes en promulguant des lois qui créent et entretiennent les classes privilégiées. À travers le privilège légal, le pouvoir de monopoliser la terre, les usines, les mines, les transports et le contrôle des inventions modernes, a mis en route un système économique qui permet à quelques hommes d'arracher à la classe populaire tout ce qu'elle produit au-dessus d'une vie dépouillée. C'est l'esclavage de notre temps que Tolstoï dépeint magistralement. Le gouvernement, qui signifie l'esclavage, produit les criminels, les pires spécimens et les plus diaboliques se trouvant au sein des classes dirigeantes. À cet effet, nous devons creuser à la racine du mal et, en abolissant le gouvernement, arrêter la production de criminels et transformer les prisons et les salles d'audience en des écoles et des lieux récréatifs. Aussi longtemps qu'une prison demeure, elle implique la souffrance humaine et la tyrannie et tous les crimes qui découlent du pouvoir sur son prochain. Ça, c'était un texte sur les prisons. Alors, n'oublions pas que Kate Austin a rencontré Emma Goldman, ou plutôt c'est Emma Goldman qui est allée à la rencontre de Kate Austin, mais sur l'invitation de Kate Austin. Donc, voilà ce que dit la grande Emma Goldman dans son livre « Vivre ma vie ». En chemin pour Denver, je fis un détour par Kaplinger Mills, une zone agricole dans le sud-ouest de l'État du Missouri. Jusque-là, mes contacts avec la vie agricole aux États-Unis s'étaient limités des années auparavant au démarchage des fermiers de Massachusetts en vue de commandes d'agrandissement de photos de leurs dignes ancêtres. Je les avais trouvés si ennuyeux, si enracinés dans les vieilles traditions sociales que je n'avais même pas eu l'envie de leur exposer mes convictions. Ils auraient pensé, j'en suis sûre, que j'étais possédée par le diable. D'où mon grand étonnement de recevoir de Kaplinger Mills une invitation pour y donner des conférences. Elle provenait de Kate Austin, la camarade qui avait organisé ces réunions et dont j'avais lu les articles dans Free Society et dans d'autres publications radicales. Ses écrits relevaient d'une penseuse logique, bien informée et à la fibre révolutionnaire, tandis que les lettres qu'elle m'avait adressées témoignaient d'une personnalité affectueuse et sensible. Sam Austin, le mari de Kate, m'attendait à la gare et m'avisa que Kaplinger Mill se trouvait à 35 km de distance. « Les routes sont vraiment mauvaises, me dit-il. Je crains d'avoir à vous attacher au siège de votre chariot pour éviter que les secousses ne vous fassent tomber à terre. » Je ne tardais pas à m'apercevoir qu'il n'avait pas exagéré. Alors, vous lirez la suite des aventures dans le beau livre. Le beau livre qui s'appelle « Vivre ma vie » dont nous avons parlé l'an dernier déjà. Livre traduit par Laure Battier et Jacqueline Reuss. Et livre qui continue sa carrière avec beaucoup de succès puisqu'il en est à sa deuxième édition. Alors on rappelle qu'il fait plus de 1000 pages, hein, 1100 pages. Et voilà, donc les traductrices continuent à courir le monde pour présenter ce beau livre. Et à la mort de Kate, voilà ce que dit Emma Goldman. Elle dit à tous ceux qui ont exprimé leur surprise, parce que je n'ai rien écrit à propos du décès de notre amie Kate, je voudrais dire que le langage humain est inadéquat pour exprimer mon chagrin suite à la perte de mon amie la plus chère parmi toutes les femmes rencontrées au cours de ma carrière publique. Il est facile de parler de l'activité d'un homme ou d'une femme publique, de la force, de la logique et de la profondeur de l'intelligence qu'il ou elle a eue. Mais qui peut faire justice à une grande personnalité, à une belle âme? Kate, pour moi, n'était pas seulement l'anarchiste, la rebelle, la penseuse, l'écrivaine. Elle était une mère, une amie, vers qui je pouvais aller trouver le repos et la paix lorsque j'étais fatiguée, hélas, des dures batailles. Elle était tout pour moi. Comment alors puis-je m'asseoir et écrire sur elle? Voilà, sur Kate Austin, le prolongement que je voulais vous proposer. Et vous dire que la chronique d'André peut être retrouvée sur, dans le numéro de Casserole. Casserole, qui est le journal féministe et libertaire à prix libre, édité par une équipe enthousiaste depuis maintenant 2 ans, je pense, oui. Et dont le cœur battant se situe dans le Limousin, mais avec des contributions qui viennent d'un peu partout en France. Donc Casserole, avec le numéro qui va jusqu'au mois d'octobre, sera avec des articles sur la solidarité et soutien avec Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate iranienne spécialisée dans la défense des droits humains et qui se trouve là, a été condamnée à 38 ans de prison et à 148 coups de fouet. Voilà. Également un article sur l'IVG en Argentine, sur le soulèvement des femmes soudanaises, sur le viol comme arme de guerre, et également sur les harcèlements, sur également l'expulsion à propos de France et Terre d'Asile de personnes qui étaient des migrants, qui étaient réfugiés au Centre Régional de Documentation Pédagogique à Limoges et qui ont été elles aussi expulsées. Voilà, donc l'article sur Kate Austin et une critique sur Female Pleasure, le film, là, que vous pouvez retrouver tout ça dans le numéro de Casserole. Et je vous donne les coordonnées. Casserole, vous pouvez vous abonner en écrivant à casse tiré du milieu role R-O-L-E-S @outlook.fr ou réclamer les numéros à la librairie du Muguet, à l'Athénée Libertaire 7 rue du Muguet. Enfin, après cette chronique sur une féministe anarchiste, sur le numéro des casseroles, je ne voulais pas passer la journée sans parler de Pinar Selek, militante turque, sociologue et investie sur tous les fronts, actuellement exilée en France, qui vient de recevoir ce vendredi 4 octobre, elle vient de recevoir le prix 2019 de la culture méditerranéenne, section société civile, décerné par un jury international. Alors donc c'est après Tahar Ben Jeloun, David Grossman, Amin Malouf, voilà, c'est Pinar Selek qui a reçu ce prix et elle est profondément touchée par cette reconnaissance. Elle a dédié son prix à toutes les femmes exilées comme elle, tout particulièrement à celles qui ne sont pas visibles et aussi à toutes les lucioles qui bravent les frontières, les forteresses, les fascismes, les violences et qui transforment le monde par leur solidarité concrète, par leur poésie et leur philosophie émancipatrice. Donc c'est un communiqué de la coordination des collectifs de solidarité avec Pinar Selek qui nous est parvenu ce matin. Et on peut y lire un extrait du discours de Pinar Selek. Alors, ai-je le temps? Puis-je prendre le temps? 1 minute et demie?
On te le donne.
Bien. Alors, Pinar Selek dit: autour de notre Méditerranée, la criminalisation de la mobilité des opprimés se traduit par des corps glacés, des corps morts, des corps qui ne rêvent plus, ou par des esclaves sans protection, sans droit, au cœur de l'Europe occidentale. À cause de mes écrits et de mes positionnements en faveur des libertés, parce que j'ai dénoncé le génocide des Arméniens et toutes les violences nationalistes, militaristes et sexistes, j'ai dû quitter mon pays. Mais je n'ai pas quitté la Méditerranée. Je continue mes combats à Nice. Comme disait Virginia Woolf, en tant que femme, je n'ai pas de pays, je ne veux pas de pays national. Mon pays, c'est la Méditerranée, et je vais faire mon possible pour que la tragédie humaine s'arrête, pour que règne la justice, la liberté et la solidarité. Deux mondes se livrent une lutte infernale. Le monde des oppresseurs, des dominants qui ont des armes, les prisons, l'argent, et le monde des lucioles, qui défendent et qui créent la vie, la beauté, la poésie. Je suis fière de faire partie du monde des lucioles, qui tire la lumière de leurs rêves et qui éclaire quand il fait nuit. Je suis ici en tant que femme réfugiée, en tant qu'écrivaine, en tant que militante, en tant que chercheur, en tant que méditerranéenne. Par mes écrits et mes actions, j'essaie de résister et de contribuer à la construction d'une contre-culture basée sur la solidarité, la liberté et la justice. Voilà, c'était les paroles de Pinar Selek.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Haute d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. La crise nous envahit aussi, on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux, on leur donne un pourboire, faut être libéral, et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal, ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes, qu'ils retournent faire les singes dans leurs cocotiers, tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau.
Eh bien, vous écoutez Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes, 90.1 MHz. Vous pouvez nous appeler pour un message ou une question sur le 05 56 50 69 99. Nous ne le répéterons pas. Et vous écoutiez François Béranger, Mamadou m'a dit, donc un morceau enregistré en 1979, sur l'album Joue pas avec mes nerfs, et celui qui a mis en ligne, mais que c'est un des plus beaux albums musicalement avec plusieurs textes engagés. Voilà, donc c'était ce morceau que nous venons d'écouter qui introduit d'une certaine façon le débat d'actu qui suit.
Débat d'actualité.
Le débat d'actualité.
Débat d'actualité.
Voilà, l'été 2019 aura été marqué donc sur la métropole bordelaise par plusieurs vagues d'expulsions de squats. Une rare solidarité en plein été s'est mise en œuvre pour aider ces centaines de personnes à la rue, familles ou personnes isolées, mineurs comme majeurs. Rare pour la saison, mais aussi par la diversité des opinions des soutiens, humanitaires comme révolutionnaires, anarchistes comme syndicalistes, athées comme croyants, catholiques comme musulmans. Rare aussi parce qu'une part du soutien a alterné le jour à l'Athénée libertaire et la nuit à la Bourse du Travail, permettant de répondre aux nécessités de la solidarité face à la dureté du capitalisme et de l'État policier. Rare enfin parce que les valeurs d'autogestion, d'auto-organisation, donc d'action directe, ont irrigué cette lutte, conduisant à l'auto-organisation des migrants eux-mêmes. Rare ou riche enfin, car elle a combiné deux luttes importantes des temps modernes, celle pour le droit au logement et celle pour le droit de circulation, le droit d'installation pour toutes et tous. Ces deux droits qui se heurtent au capital et au droit supérieur de la propriété, de la spéculation immobilière, à l'État et à ses politiques de division des exploités du monde entier en jouant sur peur et racisme, soi-disant en faisant une politique d'extrême droite pour éviter que celle-ci ne la fasse elle-même. Dans cette émission, nous nous intéresserons avec nos trois parties habituelles en premier à la vie des migrants, en passant par les squats, la question des régularisations. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les expulsions de l'été, l'organisation des soutiens, l'attitude des institutionnels étatiques comme locaux, l'auto-organisation des expulsés avec la création du comité des migrants de Bordeaux, du collectif des migrants de Bordeaux. Nous terminerons sur les perspectives de la lutte, la situation actuelle des migrants et des expulsés, les enjeux politiques de ces expulsions dans la stratégie de conquête de la mairie de Bordeaux par le pouvoir en place. Nous prendrons du champ dans l'éphéméride en évoquant des moments marquants de l'histoire des luttes des migrants si nous en avons le temps, et nous prendrons de la distance géographique dans la rubrique internationale avec l'attaque contre le quartier rebelle d'Exarchéia par le nouveau pouvoir de la droite extrême en Grèce, en commençant par attaquer les squats qui hébergent des migrants dans ce quartier. Mais tout de suite, donnons la parole à nos invités avec un tour de table où chacun pourra se présenter, dire sa situation dans la lutte ou présenter son association. La parole à vous.
Je me présente donc Myriam, militante. J'ai participé cet été à l'accueil de jour à l'Athénée Libertaire. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai bien envie de me présenter aussi comme une luciole.
Je me présente Momo. Qui représente le collectif des immigrants de Bordeaux, qui vient de se naître le 2 septembre à l'Athénée Liberté. On est là pour représenter les immigrés à Bordeaux. Merci.
Bonjour, Marina, militante et syndicaliste. J'ai participé au mouvement qui a démarré le 9 juillet à la télé libertaire.
Je me nomme Ali. Je suis mineur non accompagné. J'ai assisté à l'événement qui s'est passé à l'Athénée Libertaire.
Fred, militant syndicaliste. Je suis aussi coprésident de l'association AREV, Accueil des réfugiés dans le Val-de-l'Air, qui est née en 2015. On fait de l'hébergement sur le Val-de-l'Air et sur Bordeaux Métropole.
Pour peut-être démarrer les débats, c'est toujours le plus difficile, c'est toujours de commencer. Après, on a toujours beaucoup de mal à s'arrêter, c'est bien connu. On avait pensé qu'on pouvait commencer par ce qu'on a appelé l'historique des expulsions bordelaises en cascade, mais de l'été 2019, parce qu'on sait très bien tous autour de la table que les expulsions, il y en a eu d'autres dans les années précédentes, etc. Mais donc, vu le but de l'émission, on est parti de cet été. Donc on s'est dit que cette série avait commencé effectivement le mardi 9 juillet. Je ne sais plus qui c'est qui l'a cité, je crois que c'est toi Myriam, enfin qui a commencé effectivement. Les soutiens ont commencé le 9 juillet avec l'évacuation du squat qui s'appelait le Garage, qui se trouvait dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux, de rue des Cordeliers, je crois, si je me souviens bien.
Ça commençait avant. C'est-à-dire que Madame la Madame la préfète a commencé ses expulsions en début avril, en fait. Alors, par des petits squats au début. Et en fait, ce qui a été frappant, c'est que le Garage était un gros squat qui regroupait environ entre 80 et 100 personnes.
D'accord. D'où le fait qu'effectivement, quand on n'était pas forcément dans le mouvement dès le départ, voilà ce qui a frappé le...
C'est la quantité qui a été expulsée. Et quelques jours après, on a eu la zone du dehors, en fait.
Et la canicule.
Et la canicule qui a...
Qui a apparemment accentué, enfin qui a plus qu'accentué le phénomène. Voilà, donc effectivement, Marina vient de le dire, le 9 juillet, le Garage, mais deux jours après, hein, le 11 juillet, si les notes sont correctes, la zone du dehors, effectivement, un squat qui était installé, lui, à Saint-Médard-en-Jal, et depuis longtemps. Et là, qui hébergeait des familles.
Oui, depuis, je crois, un ou deux ans, il me semble qu'ils étaient là et très, très bien accueillis par les voisins. Très surpris de cette expulsion qui se fait plutôt dans la violence, puisque plusieurs personnes ont perdu leurs papiers. Les affaires ont été confisquées, brûlées, de façon à ce qu'ils ne puissent pas récupérer le matériel, leurs vêtements ou même les matelas pour s'installer ailleurs.
Ok, Momo, tu veux rebondir sur juste sur ce point-là, puisque tu étais au Garage?
Oui, j'étais au Garage, nous on se levait un petit matin, sorti là-bas à 9h, on est parti au Resto du Cœur, arrivé là-bas vers 10h, on nous a appelé, on dit que la police est là. Pourquoi? On dit qu'on va fermer les squats. Du coup, on n'a pas le temps de prendre nos affaires. On a fermé toutes nos affaires, on a perdu toutes nos affaires. On est parti à zéro. Et du coup, le premier jour, on est dormi dans la rue, devant les squats, avec beaucoup de 4 ou 5 associations avec des syndicalistes et tout ça là. On ne savait même pas que c'était des syndicalistes. Mais bon, le deuxième jour, on est dormi là-bas, 3, 4. Après, ils nous ont amené à la bourse. Avant la bourse, on est parti à la CNT. C'est là-bas qu'on prenait nos deux repas là-bas. Quand même, ils ont beaucoup aidé quand même. Et c'est là-bas qu'on prenait notre douche.
Que... C'était la CNT qui était tout près. C'est rue Sanche de Pommier.
Merci
près,
beaucoup. Hein. C'était derrière quand même. Après deux ou trois jours, on est parti à la bourse du travail. Là, moi, Momo, je n'oublie pas mon premier jour là-bas. J'ai quasiment dormi. Hein. J'étais souffrant. C'était dur. Période d'été quand même. Franchement.
Exact. Donc c'est vrai qu'effectivement, dans ce que dit Momo, il y a deux aspects. Il y a l'hébergement de nuit.
Oui.
À la bourse.
À la bourse.
Voilà. Et l'hébergement, enfin oui, l'accueil. Ce qu'on a appelé l'accueil de jour.
À la CNT.
Voilà.
Après une semaine, 4 ou 5 jours après, on est parti à la Tienne et Liberté.
Alors pourquoi ça, on le sait, hein, c'est, enfin tu peux confirmer Marina, des menaces, enfin des pressions des voisins,
et les menaces du propriétaire du local qui voilà.
Il y a eu un voisin qui s'est plaint au propriétaire, qui est une personne âgée et qui a laissé la gérance du local à une boîte immobilière, évidemment, qui aimerait bien récupérer le local, je pense. Donc on a reçu une mise en demeure de remettre les choses en état, en fait. Et ensuite, ils ont cassé le bail. Donc à ce moment-là, on a bien été obligés de trouver un autre lieu. Et l'Athénée Libertaire nous a ouvert les portes.
Alors j'y vais. Moi j'étais pas là au départ. Si on parle du coup de l'accueil de jour, je peux témoigner là-dessus sur à l'Athénée en tout cas. Au départ on accueillait pour la restauration et que les personnes puissent prendre des douches. Donc il y avait une douche. Il y avait une centaine de personnes qui passaient, qui étaient là dans la journée. Il y a une petite cuisine, mais qui était quand même pas mal aménagée. Il y a eu des appels aux dons. Il y a eu tout un mouvement qui s'est créé. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, c'était déjà en place. Hein. Donc, il y avait une équipe cuisine. Il y avait une permanence santé, il y avait une permanence administrative pour refaire justement un peu que les gens reprennent, puissent retrouver soit leurs papiers ou faire des demandes de duplicata, scanner, numériser les papiers et faire un point sur leur parcours aussi. Après, il y avait la librairie du Muguet, donc qui avait ouvert son local et où on faisait un peu on recensait tous les besoins. Voilà, en gros, et il y avait, je sais pas, une centaine de personnes qui sont passées. Ça allait de personnes de la mosquée de Pessa qui sont venues nous amener des sacs de riz, des gens du diaconat qui sont venus aussi et qui ont fait des appels à leur réseau sur de l'hébergement. Et après, voilà, des syndicalistes et puis des personnes, des voisins, des bénévoles, des restaurateurs du coin qui venaient amener. Soit proposer du stock qu'ils avaient, soit même faire des repas. Il y a eu le Wanted Café qui a proposé des repas. Bon, ça, c'est de façon générale. Après, je ne sais pas si on parle surtout de l'accueil.
Ça a été énorme, en fait. Ça a été un énorme élan de solidarité qui s'est fait partout. Ce qui a peut-être d'ailleurs un petit peu perturbé la préfecture, c'est qu'on pouvait voir travailler ensemble des anarchistes et des catholiques croyants et pratiquants. Donc je pense que ça a été vraiment, peut-être ça aussi qui a fait que ce mouvement a été relayé assez bien par les médias à ce moment-là. Et peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas autre chose à dire, mais enfin bref. En tous les cas, ça a été une superbe expérience avec beaucoup de rencontres humaines et aussi un choc. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, fantasmer, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais on a une image du migrant, oui, ok, on sait qu'ils dorment dans la rue, on sait qu'ils n'arrivent pas à obtenir leur papier, mais la réalité, on ne la connaît pas, en fait. On la connaît quand on est face à elle, quand on voit les gens arriver, quand on voit, par exemple, comme moi, j'ai vu arriver une femme avec deux enfants, une petite de 3 ans, un bébé de 4 mois dans les bras, qui s'est assise dans un coin, à qui on a proposé de manger. Et je suis sortie. Et quand je suis rentrée, elle était en larmes. Et là, en tant que mère et grand-mère, et je me suis dit, mais comment je vivrais, moi, en sachant que mon gosse, le soir, eh ben, il va dormir dans la rue. Et que le lendemain, je ne sais pas si je pourrais lui donner quelque chose à manger ou pas, quoi. Et donc, ça a été, pour beaucoup de bénévoles, d'ailleurs, on s'est posé la question parce que c'est dur. C'est très très dur. Et l'organisation s'est faite toute seule, presque. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je pense que moi j'étais. Parce que j'étais plus présente en juillet qu'en août, moi effectivement. Donc juillet c'était le début. Et j'ai vu qu'effectivement, spontanément, des choses se mettaient en route. J'ai vu arriver des producteurs, une productrice qui est arrivée en disant « Je vous porte 10 cajots de courgettes ». On commençait à se dire « Zut, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces courgettes ?» Bon, c'est un exemple, hein, mais...
Surtout qu'ils ne mangent pas les courgettes.
voilà, non, c'est vrai que... Bon, tu as parlé des... Alors, je pense, moi, quand même, que... J'ai cité le mot canicule tout à l'heure. Je pense que ça s'est produit au moment où l'État et les médias nous martelaient avec « Faites attention à vos proches, occupez-vous des enfants, des personnes âgées, pensez à boire, mettez-vous à l'abri ». C'était, on nous a martelé ça à peu près tout le mois de juillet, enfin à partir de mi-juin, je ne me souviens plus exactement. Et donc il y avait un tel décalage entre ce discours qui nous était martelé partout et la situation qui se passait dans Bordeaux, que je pense qu'il y a effectivement des Bordelais, des Bordelaises qui n'étaient pas des militants, qui ne, enfin, qui sont spontanément venus. Ben, je crois qu'il y avait, voilà, il y avait une contradiction entre ce qui se passait et ce qu'ils entendaient. Voilà, et je voulais juste aussi citer, mais j'ai peut-être pas beaucoup d'exemples, mais des associations aussi qui se sont mobilisées. J'ai en tête le Remue-Ménage, parce que bon, ils sont situés à côté de chez nous, mais ils ont contacté l'Athénée pour dire on a une douche, donc qui veut venir prendre une douche chez nous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a, je me souviens pas de leur nom, ceux qui s'occupent
des vélos. Il y a le Samovar aussi qui a proposé des repas.
Le Samovar. Et sans parler de repas, puisque là j'étais plutôt sur les douches et d'autres choses importantes, je ne me souviens pas du nom de l'association qui réparait les vélos.
Récupère.
C'est Récupère. Qui a effectivement apparemment beaucoup œuvré aussi. Donc voilà, moi c'était les impressions que j'ai eues, surtout en juillet, parce que c'est là que j'ai été le plus présente. Mais si, j'ai sûrement oublié... Un tas de choses, un tas d'intervenants.
Moi, j'interviewe. Même il y avait un endroit qu'on faisait les linges là, gratuitement, tous les mardis et tous les mercredis. Je ne connais pas le nom, mais nous, on connaît là-bas. Et surtout les bénévoles aussi qui venaient à l'Athénée. Il y a beaucoup de bénévoles qui prenaient notre linge,
oui,
qui amenaient ça à la maison. Quand tu fais ça deux jours, trois jours, tu reçois tes linges. Quand on était à la bourse, on publie sur la page, on vient, il prend les serviettes et tout ça là. Et à la bourse aussi, il y avait des bénévoles qui passaient là-bas pour amener des bouffes, tout comme ça. Franchement, moi je dis chapeau les bénévoles de Téné quand même. Chapeau. Non, les moments difficiles, franchement, parler. Celui que tu as vu, tu n'as pas vu ton père, ni ta mère, ni personne, tu es seul. Franchement, parler, si on te donne une bouteille d'eau, c'est quelque chose quand même. Et à l'Athénée, on assurait deux repas par jour, c'est de l'or pour nous. Franchement, parler, si aujourd'hui on se mobilise pour être association ou quelque chose, c'est à cause des bénévoles. Parce que c'est eux qui grâce à les bénévoles, c'est parce que c'est eux qui ont cherché notre bien-être. Si c'est mieux aujourd'hui, parlais-tu comme ça, Momo dit que oui, c'est moi, Momo, secrétaire général, c'est les bénévoles. C'est pourquoi ça, qu'il y a certains bénévoles, je lui dis maman, parce que je le regarde comme ma mère. Il y avait une familiarité là-bas. Ce qui me fait mal entre la familiarité, le 31 août, la fermeture de Téné. C'est deux jours après qu'on connaît la valeur de Téné. C'était dur.
Oui, le 31 août, c'est le jour, le dernier jour de l'ouverture de
l'Athénée. C'était hyper dur. Le 1er septembre, c'est autre chose. Le 2, on a compris la réalité.
Oui. Même si c'était une fin qui était annoncée, qui était dite, mais
oui,
c'est dur. Quoi.
Oui. Moi, on a annoncé la fin de l'Athénée. J'y crois même pas. Parce que je tourne à gauche, à droite, je vais aller où? C'était dur. Bon, jusqu'à présent, on essaye, mais c'est dur quand même.
C'est pour ça qu'il nous faut trouver un autre lieu pour faire l'accueil de jour. Et la mairie n'a pas l'air très pressée de nous l'accorder. Enfin, ça fait des mois qu'on a des promesses, c'est pas rien en vue. En attendant, vous avez beaucoup de gens à la rue. Il suffit d'aller à Bordeaux-Lac pour voir dans quelles conditions ils sont installés. Et en sachant que l'hiver va arriver,
que parmi ces gens qui sont dans la rue, vous avez des femmes, des enfants, vous avez des mineurs non accompagnés, comme c'est le cas pour Ali.
Oui, moi, je suis venu ici vers la fin du laquais de la Tchénie. Je suis venu, je n'ai aucun parent ici, je ne connaissais personne là où je vais aller. J'ai demandé aux gens, ils m'ont indiqué d'aller à la Tchénie, il y a un accueil là-bas. Je me suis dirigé vers là-bas, j'ai trouvé beaucoup de personnes et il y avait des bénévoles qui donnaient des repas. Moi-même, tellement que j'étais étonné, j'ai pensé que les repas sont à vendre. J'ai demandé, ils m'ont dit que c'est gratuit. Je suis rentré dans la salle et on m'a servi. J'avais mon sac avec un peu de vêtements. Maintenant, les bénévoles m'ont assisté, ils m'ont pris, ils m'ont donné des vêtements. Ce que je veux dire, ils m'ont aidé beaucoup. C'est ça.
Et il y a une autre association qui nous a beaucoup aidé aussi. Je voudrais quand même tirer mon chapeau, bien que je ne suis pas très croyante, à monsieur le diacre de Bordeaux, j'ai oublié son nom, Michel, prénom, je me souviens, c'est Michel, qui a quand même réussi, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées parmi ses paroissiens, à nous trouver 4 logements pour des familles ou des hommes seuls, des personnes âgées. Et l'association Arève, qui a tout de suite travaillé avec l'Athénée, enfin avec tous les bénévoles de l'Athénée, pour essayer de, au moins de mettre en sécurité des femmes ou des jeunes.
Il y a peut-être un point aussi qu'on n'a pas souligné encore, c'est qu'à l'Athénée Libertaire, c'est un accueil de jour où on proposait effectivement des repas. On va donner un peu de chiffres, hein, 300 repas par jour, à raison du repas le midi, le repas le soir. Repas fait via de la récupération alimentaire. On proposait un moment de repos, de répit pour celles et ceux qui vivent à la rue. Et je pense qu'on est peu, enfin, on se rend pas compte de ce que ça peut représenter qu'un moment de repos et de répit quand on est au fond de son canapé tranquille avec ses enfants. Était proposé aussi sur cet endroit une permanence juridique, une permanence santé. Des bénévoles venaient pour accompagner les gens dans Bordeaux dans le cadre de leur démarche. Il y avait aussi une récupération de vêtements qui était faite, parce que quand tu vis à la rue, t'as pas de fringues, il faut bien t'habiller. Je pense au jeune Ali qui vient de parler, quand il est arrivé sur Bordeaux, il avait que les vêtements qu'il avait sur lui. Je pense que leur proposer un minimum de dignité, les vêtements en font partie. On faisait la récupération de produits d'hygiène, pour l'hygiène corporelle, mais également les produits féminins. Des activités pour les enfants aussi qui étaient organisées. Je ne sais plus quel collectif proposait des activités, mais les enfants étaient pris en charge par Marina.
En fait, les enfants étaient pris en charge par des bénévoles, mais c'est vrai que nous avons eu pas mal de gens qui sont venus proposer leurs services. Par exemple, une femme qui avait des petits ânes, des petits chevaux, pour proposer de faire des tours aux enfants. On a eu aussi, malheureusement, j'ai pas gardé le nom, mais quelqu'un qui mettait en scène des spectacles pour enfants, qui est venu proposer de recevoir les enfants à des spectacles gratuitement. Enfin, beaucoup de gens du spectacle se sont à rapprocher de nous pour essayer de faire penser pendant quelques instants à ces enfants autre chose que la rue, quoi.
Donc les activités autour des enfants, puis des cours de français aussi qui ont été proposés, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, sur le local de la CNT, rue Sange de Pommier, si je ne dis pas de bêtises. Et il y avait un autre point, oui, tout à l'heure on parlait de Récupère qui a proposé des ateliers pour remettre en état des vélos, et tu répares un vélo, tu repars avec ton vélo, ce qui permet de pouvoir te déplacer dans la métropole de manière simple, parce que transport en commun, faut payer, t'as pas de sous, tu payes pas, tu fraudes, tu te fais serrer. En plus de ces aspects-là, ça permet de leur proposer la possibilité de faire des déplacements avec un bilan carbone plutôt pas mauvais.
Tu parlais de dignité tout à l'heure. Alors, pour nous, comme ça, là, au sein de l'émission, ça peut paraître un détail, mais ça n'était pas un. Il y avait aussi des permanences coiffeurs à l'Athénée. important. Alors c'est vrai que nous on pourrait dire bon voilà, mais non, c'est...
Non, c'est pas du luxe.
C'est pas du luxe.
Non.
Il y avait une permanence qu'à force avait quand même, ça fait du bien, parce que pour chercher, tu n'avais pas un euro. Pour te coiffer, ça te coûte 10 euros. Et tu avais un coiffeur qui est à côté de toi avec 0 euro. Là, c'est quelque chose pour nous quand même. Franchement, on parle.
Il y a beaucoup de jeunes.
Je voulais rajouter quelque chose aussi quand même. C'est qu'il n'y avait pas que des bénévoles qui ont fait les choses. On a laissé l'espace, ça s'est fait assez naturellement, parce que de toute façon, vu tout ce qu'il y avait à faire, on n'aurait jamais pu faire tout seul. Donc, petit à petit et assez rapidement, il y a eu quand même une large part laissée à tout le monde pour se mettre à s'auto-aider, quoi. Je sais pas comment on peut le dire, hein, mais donc les personnes qui étaient
en fait migrants, ouais, et bénévoles.
Voilà, les personnes expulsées se sont retrouvées assez vite à être à l'équipe cuisine, à la gestion des stocks, et même d'autres trucs, hein, je pense le ménage, le service des repas. D'aller réparer soi-même son vélo, c'est toujours, voilà, c'était, il y a une autogestion et auto-formation, même à la vie libertaire et anarchiste.
Non, il faut reconnaître qu'on n'a pas été mauvais sur ce coup-là. Pour des gens qui n'y connaissaient rien, ça s'est pas si mal passé que ça. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais.
Parce que les repas étaient bons et les gens adoraient venir manger chez nous.
Non, c'était cool. À part les courgettes. Hein. Moi, c'est les courgettes que je rentre à la télé, je vois les courgettes. Oh, je suis mal barré aujourd'hui.
Moralité, n'allez pas faire des plantations de courgettes en Afrique. Ça ne marche pas.
Mais quand même, à l'Athénée, moi, c'est la familiarité qui me manque quand même, surtout à la bourse quand même.
Et pourtant, je crois qu'elles étaient bio, hein, les courgettes.
Oui, elles étaient bio.
C'est bio. Mais surtout, je voulais mettre juste une petite parenthèse sur la bourse. Même les bénévoles, ils dormaient là-bas, à la bourse avec nous. Moi, je me posais la question, toujours. Je ne veux pas citer des noms, je ne sais pas. Mais il y avait des gens qui dormaient toujours. J'ai dit que mais vous fermez votre appartement et vous restez avec nous ici. C'était bizarre dans ma tête. Et on ne me connaissait pas. Franchement, parler. Je vous dis tout le temps, je tire chapeau à tous les bénévoles de l'Athénée et toutes les associations qui étaient à côté de nous. Franchement, parler. Si aujourd'hui on est dans cette table, ça veut dire qu'on a notre bien-être quand même. C'est les bénévoles de Téné quand même. Franchement.
Sur ces bonnes paroles, on va écouter un petit morceau de musique.
Moi que le pas, ancien combattant, on a souqué. Marque le pas, ancien combattant, on a souqué. Marque le pas, ancien combattant, on a souqué. Marque le pas, ancien combattant, on a souqué.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarade ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Avec le coup de matraque, tout à coup patatras.
Cadaver, le peuple cadaver, les militaires cadaver, les rois cadaver, les reines cadaver, tous les présidents cadaver, les ministres cadaver, tout le monde est cadaver, et moi-même cadaver.
Marque le pas, ancien combattant,
on a sauté.
Marque le pas, ancien combattant,
on a sauté.
Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde est affamé, oh. Quand viendra la guerre, tout
nos enfants affamés. Oh. Le coq ne va plus le coquet, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le foot balleur ne va plus le footer, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le footer, pousser le ballon. Cadaver, les joueurs, cadaver, les équipes, cadaver, la radio, cadaver, la télévision, cadaver, les stades, cadaver, les arbitres, cadaver, les supporters, cadaver, ta femme, cadaver, le premier bureau, cadaver, le deuxième bureau, cadaver, mes bêtes, cadaver, mes moutons, cadaver, mon chien, cadaver, mon chat, cadaver, tout le monde est cadaver, et moi-même, cadaver. Ce combattant,
on a sauté,
ma queue le pas. Ce combattant,
on a sauté,
ma queue le pas. Ce combattant,
on a sauté,
ma queue le pas. Ce combattant,
on a sauté.
La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand on verra la bombe, tout le monde est bombé. Oh.
Cadaver, ton pays, cadaver. La France, cadaver. L'Italie, cadaver. L'URSS, cadaver. Les États-Unis, cadaver. L'Allemagne, cadaver. Les enfants, cadaver. Tout le monde est cadaver.
Voilà, vous écoutez Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1 MHz. Exactement, le morceau que vous écoutiez, c'était Zao, ancien combattant. Zao, donc, est un chanteur, zaïrois de la République du Congo, exactement. Donc, il est né à Goma. Et donc, c'est une chanson, qu'on s'appelle, qui a été récupérée, en fin de compte, qui a été écrite par un chanteur malien. Et ça, c'était donc en 1969. C'est la chanson d'origine pour la radio-télévision malienne. Et ça a été, bon, voilà, il y a une longue histoire sur cette chanson qui a été reprise, qui a circulé en Afrique. Et donc, c'est le Brazzavillois Casimir Zoba, qui est plus connu sous le nom de Zao, qui a enflammé le monde. Et donc, il fait des chansons qui, à la fois, sont politiques, mais aussi sur un ton humoristique. Voilà, donc, il était, bon, voilà, 1984, c'est vrai que ça date, mais. Ça fait partie de. Il reprend cette histoire. Voilà, je vous invite à rechercher Zao, ancien combattant, sur l'histoire de cette chanson. Et donc, eh bien, nous continuons. Si ma souris veut bien bouger jusqu'au débat d'actu.
Débat d'actualité.
Le débat d'actualité.
Voilà, ce qui nous permet de reprendre sur la suite de l'été et qui a permis à certains de sortir, de reprendre l'air. Voilà, ben on continue.
Prendre l'air, tu es très gentil, Philippe.
Tu ne veux pas. Je n'ai pas dire. Qualifié l'air qui
était. La qualité de l'air. Tu n'as pas parlé de la qualité.
On a repris une bouffée d'oxygène.
C'est très bien. Alors, on était pendant cette pause musicale autour de la table, on se disait qu'on a peut-être un petit peu mordu dans la première partie sur le sujet de la seconde, mais que finalement ce n'était pas grave. Et donc, je vous propose qu'on continue nos débats. La réflexion que je me faisais, c'est qu'on a effectivement beaucoup parlé de l'accueil du jour. C'était quand même essentiellement pour ça qu'on vous avait demandé de venir. Mais il y a quand même ce qui nous tracasse beaucoup, c'est quand même aussi l'hébergement tout court. Et on en a peu parlé. On a parlé, Momo a parlé de la bourse. Ok, mais ça c'est effectivement terminé. Voilà, et les gens sont à la rue.
Oui, actuellement ils sont à la rue. D'ailleurs, on a fait une réunion récemment avec les migrants, avec le CMB. Et on s'aperçoit.
Le CMB, tu peux préciser.
Le CMB, c'est le.
Le CMB, c'est le collectif des immigrants de Bordeaux. Et maintenant, c'est devenu association depuis le 17 septembre. On est passé par le journal officiel. Voilà. Et puis, il faut vous dire que. CMB, si on dit aujourd'hui CMB, c'est à cause des bénévoles. Franchement. Nous, on est des Bordelais. Hein. On n'est pas des immigrés maintenant. Sérieusement. Mais c'est à cause des bénévoles de l'Athénée quand même.
D'ailleurs, il y a une grande discussion au sujet de ce mot migrant. Beaucoup préfèrent le mot réfugié. Puisqu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont envie d'être là. En fait, ils sont là poussés souvent par la situation politique, les situations de guerre, les situations de misère, qui ont souvent été mis en place justement par les pays qui refusent de les recevoir maintenant. Si vous permettez, je vais faire un peu... par exemple, en Afrique. En Afrique, qui est un pays, enfin, qui est un continent très très riche. Si vous prenez une société comme Total, elle s'est fait en 2018 4,5 milliards de bénéfices de production en Afrique. Et là-bas, vous avez quand même 43,5 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 9 euros par mois. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc pour dire que quand on a eu notre dernière réunion avec le CMB, nous, on était très, nous les bénévoles, on était très fixés sur l'accueil de jour. Et là, on s'est aperçu, quand eux, ils ont pris la parole, que ce qui les préoccupe le plus, c'est la nuit. Surtout que là, on va rentrer en période d'hiver, que beaucoup d'entre eux dorment soit à Bordeaux-Lac sous des tentes, ça c'est pour les mieux lotis, soit là où ils trouvent de la place, dans les parcs, dans les... là où ils peuvent, quoi, là où on leur laisse un peu d'espace, où la police ne vient pas trop les déranger. Donc effectivement, nous sommes toujours... Il y a une commission logement qui a été créée, et nous sommes toujours en recherche d'endroits où ces gens-là peuvent dormir. Alors si quelqu'un est intéressé, il a une chambre de disponible, un lieu où ils peuvent, même pour que ce soit une quinzaine de jours, ça leur permet toujours de faire une pause dans leur galère. Si quelqu'un est intéressé, ben n'hésitez pas à nous rejoindre, enfin à nous appeler, ou appeler la radio, dont je ne sais jamais dire le nom, je suis désolée.
La clé des ondes.
La clé des ondes. Ah non, c'est l'autre que j'avais du mal. Aïe, Shaira.
En fait, ça ne veut rien dire.
Non.
Non, voilà.
C'est Ashaira.
C'est Ashaira.
Donc ça veut tout dire.
Voilà, c'est ça.
Pour rebondir, Marina, pardon, sur le logement... Tout l'été, quand même, il y a eu un parallèle. On était dans l'urgence pour l'accueil, pour servir des repas et pour que les gens puissent se doucher ou laver les vêtements. Mais il y avait aussi des discussions et des demandes qui étaient faites auprès des élus de la métropole, auprès des institutions, pour trouver, justement, pour ouvrir des lieux quoi, d'hébergement. Et où on a été baladé pendant 2 mois entre les municipalités qui ne voulaient pas se mouiller en nous disant qu'elles allaient se faire taper sur les doigts par la préfète. Ça a été des propositions. Ah, on avait pensé, on va vous proposer un gymnase.
Le gymnase tiers.
Le gymnase de la du tiers. Ça a même été, je pense... déclaré à la presse comme quoi il y avait ce projet pour participer à l'accueil. Bon, il y a eu plusieurs propositions comme ça et à chaque fois on a attendu, bon on a très vite arrêté d'attendre d'ailleurs, mais à chaque fois c'est quand même ça fait retomber et c'est hyper déprimant quoi, en fait ça plombe le moral quand les gens sont dans l'espoir et puis qu'en fait ils se rendent compte qu'ils ont été baladés. Donc voilà. Donc on est toujours en discussion. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient moins. On espère. En tout cas, on relâche pas la pression sur les pouvoirs publics pour l'ouverture de lieux d'accueil de jour et d'accueil de nuit, parce que en effet, de toute façon, normalement, tous les demandeurs d'asile sont censés être hébergés par l'État. Et les mineurs non accompagnés aussi. Et les familles avec des enfants aussi. Et les femmes seules aussi. Enfin, tous ces gens-là sont censés pouvoir être hébergés ce qui n'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qu'on dénonce aussi. C'est le fait que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire normalement. Voilà.
Bon, Myriam, moi je te rejoins sur ce plan-là. Aussi au nom de CMB, excusez-moi de retourner juste pour Bosso. On a dépassé cette salle-là, mais juste pour dire qu'à la Bosso, certes qu'on a logé des gens quand même, Madame la préfète, pour dire pas les féliciter, mais on les remercie quand même, il n'est pas l'heure de les féliciter. Et du coup, pour les hébergeurs, pour l'accueil du jour, CMB aussi, il a fait ses démarches avec la deuxième adjointe du maire, mais toujours des promesses. Mais bon, vu que notre statut nous permet de faire une voie légale, après, c'est aussi, CMB et ses bénévoles vont se réunir pour discuter notre plan B quand même.
D'autant que pour la partie prise en charge logement, nous chez AREV on milite pour un toit pour toutes et un toit pour tous. Il faut savoir que sur l'agglomération bordelaise, le recensement de l'INSEE de 2015 avait recensé un peu plus de 20 000 logements inoccupés. Et qu'aujourd'hui, il y a des lois qui existent pour faire des réquisitions. La préfète est tout à fait en mesure de mettre en œuvre le droit au logement. Et plutôt que de mettre en œuvre ce droit au logement, elle préfère expulser les squats solidaires. On ne vit pas dans un squat par plaisir, mais par obligation, parce que l'État est défaillant et ne prend pas en charge les personnes qu'elle devrait prendre en charge. Donc plutôt que de faire ces mises à l'abri et mettre en œuvre le droit au logement, la préfète préfère expulser ses squats solidaires pour ne pas faire d'appel d'air, ce sont ses propos.
Mais à l'heure actuelle, donc, quels sont les leviers pour faire bouger la situation et mettre l'État en face de ses responsabilités? Quelles sont les possibilités, quels sont les recours? Puisque les négociations sont nombreuses, elles sont suivies, elles sont entamées depuis des mois et ne conduisent à rien.
Alors déjà, rien que... Alors je ne parle pas de la suite juridique parce que... j'ai pas les éléments pour, mais je pense que vous étiez là. Le 18 septembre, on a fait une action devant l'hôtel de ville. Il y a une délégation qui a été reçue. Et finalement, grosso modo, je résume, hein, mais Marina, tu peux corriger si tu as eu plus d'éléments. Ce qui en est sorti, c'est que la mairie ne réquisitionnera pas, c'est sûr, mais laisser entendre que si nous, on le faisait, ils nous embêteraient pas, quoi. C'était un peu ça, où j'ai mal compris.
Non, c'est à peu près ça, oui.
C'est ça.
C'est-à-dire, en clair,
ouvrez les squats.
Voilà, il fermerait les yeux sur l'ouverture de squats.
Elle a donné des adresses. Voilà,
elle a donné des adresses, mais elle a dit qu'elle ne le ferait pas. Mais je pense que là, on va rentrer en période électorale, puisque 2020, c'est les municipales. Et je pense qu'il n'y a pas un seul maire qui osera prendre ce type de décision.
Oui, bien.
Et qu'en plus, la préfète, à chaque fois qu'il y a eu une proposition, a fait de fortes pressions. Je vous rappelle quand même son discours, c'est de dire qu'elle veut plus de sécurité en vivant les squats. Donc c'est sûr que quand les gens sont dans la rue et ne savent pas quoi faire de leur vie dans la rue, ils sont beaucoup moins dangereux que quand ils ont un logement et un endroit où dormir et se réfugier quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a la canicule, c'est certain. Donc ça va être très compliqué, on va voir. De toute façon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra faire quelque chose. On ne peut pas laisser les gens dehors. On ne peut pas laisser les gens dehors. Là, il va commencer. Vous avez vu le temps qu'il fait en ce moment. Il pleut tous les jours quasiment. Les gens sur Bordeaux-Lac, je ne sais pas si quelqu'un a fait le déplacement. Momo, tu y es, toi? Il y a combien de personnes sur Bordeaux-Lac?
Nous, c'est bien, on est parti à Bordeaux-Lac. Il y a 11 familles qu'on a recensées là-bas. 11 familles.
Avec des enfants?
Avec des enfants. Il y a au minimum, chaque famille a 3 enfants au minimum à Bordeaux-Lac.
Et Bordeaux-Lac, ce sont des tentes, pour cuisiner?
C'est des tentes, hein. Eux, ils mangent au resto du cœur le matin, et le soir, ils se démerdent.
Et pas d'eau, pas d'électricité.
Il n'y a rien. C'est dans le noir.
Je voulais juste revenir un moment sur la parole des élus. Parce qu'avant d'être empêché physiquement, j'avais participé à une réunion à la communauté urbaine de Bordeaux où il était question de proposer un gymnase à Venutières. Or, était présent donc le secrétaire général de la mairie de Bordeaux et des adjoints immobiliers. Or, ce gymnase a déjà hébergé, il y a 3 ou 4 mois, les Sahraouis, et ils avaient fait boucher les sanitaires. Donc, la mairie de Bordeaux. Donc, ils étaient bien au courant, au moment où ils proposaient cet espace-là, qu'il était dans un état indisponible. Il s'est déplacé pour venir à sortir. On va vous ouvrir ce lieu-là plus un autre. Ça veut dire que il n'y a aucune difficulté à mentir, en sachant que toutes les personnes qui étaient là avaient toutes les compétences responsables de la métropole sur les locaux, connaissaient la situation et qu'ils allaient finir par dire que c'est pas possible. Donc ils ont proposé quelque chose dont ils savaient qu'ils allaient dire. Donc c'est le problème, c'est comment on peut discuter effectivement avec une parole de cette nature. La seule façon, c'est qu'il y a un rapport de force derrière. C'est tant qu'il n'y a pas de rapport de force de créer, leur parole est une parole dilatoire. Elle vise à simplement à gagner du temps. Et enfin, moi, c'est voilà.
C'est ce qu'ils font toujours, en fait.
Voilà, hein. Oui,
moi, je fais partie de ceux qui croient plus. Il y a longtemps que quand le maire ou un élu quelconque se met à parler, moi, je dis parole, vous savez, comme Dalida. Bon, il y en a qui préfèrent la voie légaliste. C'est on a oublié de parler d'une seule association qui nous a beaucoup soutenus et qui a beaucoup soutenu Oval Citoyen. Donc Jeff qui est actuellement travaille avec Lucas sur Oval Citoyen, ont beaucoup œuvré. Ils ont essayé de voir les élus, ils ont été voir d'autres accueils de jour qui ont été ouverts par exemple à Pau, à Nantes. Alors Pau légal puisque c'est le maire qui a donné toute l'infrastructure. Nantes, un peu moins légal, on va dire. Mais bon, oui, ils essayent. On essaye les voies légales. Et le CMB, ils ont raison. Ils essayent de faire par la voie légale. Mais bon, moi personnellement, je crois qu'on n'obtiendra rien comme ça. Hein. C'est-à-dire que la seule façon, si on veut obtenir quelque chose, ça va être une réquisition citoyenne. C'est-à-dire des citoyens qui décident à un moment donné que ça suffit. On trouve un local qui est vide depuis des années, qui sert à rien, qui est en attente de faire du profit immobilier. Et on l'occupe et puis on voit ce qui se passe, quoi. Après, si la mairie est vraiment a un peu d'humanité, elle acceptera de nous faire un bail précaire, ce qui nous permettrait de légaliser un peu la réquisition. On verra, mais c'est sûr que actuellement, des promesses, on en a eu plein. Mais même eux, ils osent même plus nous la faire. Ils osent même plus nous dire oui, on vous promet. Non, ils disent. On fera pas de réquisition, mais on connaît des lieux où ça serait possible. Oui, exactement.
Extraordinaire. De la même manière, c'est pas que cet été, finalement, ça arrangeait bien toutes les autorités, ce qui se passait à l'Athénée. La mairie n'a pas hésité à venir porter une poubelle. Tout de suite, hein, c'était. Non, mais c'est très bien ce que vous faites.
Non, mais même la police nous amenait des gens, donc c'était hallucinant à voir, quoi. Ils récupèrent quelqu'un dans un parc, ils disent, mais vous savez, vous avez l'Athénée Libertaire qui reçoit les gens, quoi. Ils se sont complètement déchargés. Ça a été le gros problème pour les militants. Les bénévoles, je pense qu'ils venaient dans un but humanitaire. On est tous venus dans un but humanitaire, on ne peut pas laisser quelqu'un dans la rue. Mais il y avait des militants, et le problème, c'était qu'on avait l'impression de contribuer à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que l'État compte sur c'est un mot horrible, ce que je vais dire, mais sur la charité des gens, quoi. C'est compte sur les plus pauvres pour aider les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son boulot. Il ne fait pas son boulot. De toute façon.
Ce qui est choquant, c'est que l'État, représentation, donne des leçons dans le monde sur effectivement un certain nombre de valeurs et a signé des accords internationaux. C'est pas pour tout le monde, mais il y a un certain nombre, vous avez cité les mineurs et les réfugiés. La France a signé des accords s'engageant à héberger. Donc,
déjà, pour avoir le statut, il faut pouvoir, hein, déjà. Oui, parce que avant, combien de mineurs, on leur dit, ils ne sont pas mineurs.
Les demandeurs, oui.
Là, vous avez Ali, par exemple, on a estimé qu'il n'était pas mineur parce qu'il était trop poli. Soi-disant qu'à partir d'un certain âge, on ne doit pas être poli. Je sais pas. Voilà. Donc, vous en avez d'autres parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils. Je veux dire, on juge leur minorité ou leur majorité en fonction de nos critères européens. Or, quand vous avez un gamin qui a traversé 2-3 pays, qui en a pris plein sa figure pendant des mois, qui a quitté toute sa famille, qui s'est trouvé complètement perdu, qui a voyagé dans des conditions extrêmes par moment, c'est sûr qu'il n'a pas le même langage, il n'a pas la même façon de parler, il n'a pas le même positionnement qu'un ado de chez nous qui vit dans la soie, quelque part. Hein. Je ne dis pas que tous nos ados vivent dans la soie, mais ce que je veux dire, qu'ils ne se trouvent pas confrontés à ce type de problème. Donc, pour les réfugiés politiques, c'est la même chose. Par exemple, hier, il y a, enfin, politique ou même autre. C'est-à-dire que vous avez tous les LGBT, les homosexuels. Dans certains pays, ils sont massacrés ou ils sont Nigeria, emprisonnés. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu le cas de Géry. Géry qui a été arrêté à Pau, un homosexuel. S'il rentre chez lui, c'est 14 ans de prison. Rien que parce qu'il est homosexuel, s'il arrive à la prison, vivant. D'accord.
Lui risque ou la police ou la population
voilà.
Qui risque de lyncher.
Voilà. Et donc la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est le déporter sur Bordeaux parce qu'il y avait un trop fort mouvement d'aide là-bas à Pau. Donc enfin, je veux dire, c'est
déporté dans un centre de rétention administrative.
Voilà. Oui. Et il a fallu qu'on se mobilise ici pour essayer de le faire sortir. Je crois qu'il est sorti d'ailleurs. Il me semble que. Voilà, mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que même quand vous savez que même quand ils savent que les gens sont en danger de mort si on les rapatrie dans leur pays, et on appelle ça le pays de droits de l'homme, les droits de l'homme. Ouais, où sont les droits de l'homme ?
Étroit de l'homme.
Les institutions, s'assoient complètement sur les accords de Genève qu'ils ont signés en 1951.
Absolument.
Vous savez ce que m'a dit une fois, je ne sais pas si c'est toi Momo qui m'a dit ça, non c'est pas toi, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, c'est quand même incroyable que nous, pour avoir le droit d'être en France, il nous faut un visa, alors que vous venez chez nous, vous n'avez pas besoin de visa.
Eux ils sont migrants, nous on est expats.
Voilà, c'est hallucinant quoi.
Alors, moi ce qui est bizarre... excusez-moi de dire ça parce que j'en considère comme un bordelais maintenant. Les Français qui sont chez nous, ils sont bien, ils sont tranquilles. Ce qui est bizarre. Moi, je te dis, est-ce qu'on est, on nous a colonisés? Tu viens ici, tu fais tes démarches, mais c'est hallucinant, quoi. Si tu pars chez nous, les Français qui sont là-bas, ils sont tranquilles. On ne l'embête pas. On le traite comme des rois.
Ouais. On est loin de la réciprocité.
Après un moment donné, là, tu réfléchis que... Mais attends, pourquoi on ne rend pas la monnaie? On utilise des êtres humains. Je n'ai pas choisi d'être là. Une personne doit vivre là où il veut. Moi, j'ai envie de vivre ici. Il y a au minimum. L'État français doit respecter ses conventions quand même. C'est au minimum. Et tu marches dans la rue, tu es un demandeur d'asile. Aucun droit. Tu es limité. Tu n'es pas tranquille dans ta tête. C'est horrible, quoi. J'espère que c'est un combat. Je peux dire qu'on est loin de gagner ce combat, mais on va continuer à se battre quand même. Franchement, parler.
Ok, moi je voulais seulement revenir sur les entretiens que certaines associations font avec les mineurs. Une fois peut-être que ces associations voient que peut-être tu débrouilles un peu en français ou bien tu es de la grande taille et ils vont supposer tu n'es plus mineur, tu n'es pas mineur, tu es âgé plus que 18 ans, je veux dire. Et ou bien si ils te voient avec certains comportements, et vous savez, nous en Afrique, il y a certaines personnes, s'ils sont ici quand même dans certaines familles qu'il y a quand même l'éducation, ils ne peuvent pas se comporter d'une autre façon. Nous en Afrique, c'est quand même chez nous. Et on doit respecter les personnes âgées. on ne doit pas insulter les gens, tout ça là, nous on nous a appris là-bas. Donc moi, je vais prendre l'exemple sur moi, j'ai passé des entretiens, mais lorsque j'ai lu les commentaires qu'ils m'ont dit, ça m'a fait mal. Ils m'ont dit que du fait que je m'exprime bien en français, je viens très poli dans les différents entretiens, donc ils supposent que je ne suis pas mineur. Donc ils m'ont mis dans la rue. Mais grâce aux bénévoles, aux associations qui sont sur Bordeaux quand même, ils m'ont aidé, ils m'ont envoyé à suivre des cours de français, parce que la plupart des Africains qui viennent ici, dans certains pays, ils ne savent pas lire ni écrire. Mais à travers ces bénévoles, certains arrivent quand même à se débrouiller un peu. Oui, c'est ça.
Et toi, tu suis des cours ?
Bon, oui. Lorsque je suis arrivé, on m'a informé qu'il y a une association qui donne les cours gratuits à l'Athénée et au CNT. Oui, je me suis rendu là-bas, j'ai commencé à suivre les cours. J'ai fait là-bas à peu près 2 à 3 semaines. Et maintenant, on m'a envoyé encore dans une autre association qui s'appelle Tremplin. Ils m'ont fait passer des tests pour savoir mon niveau. J'ai fait le test, ils m'ont demandé mon parcours, j'ai tout expliqué. Après, ils m'ont envoyé dans une... Il y a une salle, ce n'est pas une école, mais une salle qu'on donne les cours gratuits en mathématiques et en français. Actuellement, j'évolue là-bas.
Une pause musicale.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down their frame. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my people to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and the police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life. Alabama, Alabama, why you wanna be so mean? Got my people behind a barbed wire fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on écoute sur Achaïra
On écoute Jibil Lenoir, comme son nom l'indique, qui est afro-américain. Alors c'est un disque assez particulier, parce que d'abord il est en guitare acoustique, il l'a enregistré sur le vieux continent, et il n'y a rien que des titres contestataires, contre la guerre au Vietnam, contre le racisme en Alabama, comme dans la chanson, le Mississippi. Et tristement, enfin, je ne sais pas s'il faut dire ça tristement, ou on s'y attendait, le disque n'a très longtemps pas été édité aux USA. Et même la mafia du blues, dont je fais partie, a fermé sa gueule.
Débat d'actualité.
Le débat d'actualité.
Débat d'actualité.
Alors, nous avons été très bavards parce que finalement, on arrive, il est déjà 21h30. Donc, on aborde la troisième partie de notre sujet principal de l'émission. Voilà, on l'avait appelé « Les perspectives des soutiens et la situation politique des migrants ». Ça, c'était un titre très générique. Donc, là, je pense qu'on est un peu dans les perspectives et quelles sont les actions que nous, nous avons envie de mener. Je pense que Myriam avait plein de bonnes idées.
Non. j'en ai plusieurs, mais donc, de façon pratico-pratique, dans les perspectives... On reste toujours à la recherche d'un local pour pouvoir continuer des permanences juridiques, santé. On a plein d'idées, des ateliers d'art plat, des ateliers d'écriture, de lecture. Enfin, il y a, je crois, énormément d'idées, de choses sympathiques, plus douche, repas. Voilà, mais tout ça c'est en construction. Il y a énormément d'organisations avec qui on a envie de travailler et pour qu'elles viennent intervenir sur le lieu, pour que voilà, ça soit un peu un grand pôle où tout le monde peut se retrouver. Parce que ce que moi j'ai réalisé cet été, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de personnes ou d'assos qui font des choses dans leur coin, et là ça va, c'était un endroit où tout le monde pouvait aussi se retrouver. Donc voilà, et dans les choses, parce que je trouve que c'était important de le dire, c'était aussi un accueil inconditionnel. Il n'y avait pas de... c'est ça qui a permis, si on peut dire, que sur la fin, on soit, je sais pas si on peut dire débordé, mais qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient, parce que aussi les institutions ferment au mois d'août. Donc au départ, on avait les personnes expulsées des squats qui étaient là, et puis sont arrivés les gens qui sont plus des usagers du SAMU social, des Restos du Cœur, qui ont des logements de... comment on appelle ça? Des logements de... pas les CAT, mais... des gens qui sont pris en charge par le gouvernement, des travailleurs, comment on dit, je trouve
des
plus
foyers,
les mots.
Des
oui,
foyers.
Ça peut être des foyers, ouais. Bon, voilà quoi. Pour ça. Et sinon, après, de façon plus large et dans nos revendications, qui pourraient, je pense, résoudre beaucoup de soucis qu'on rencontre et de mal vivre, quoi, je sais pas. Ça serait, de toute façon, ça en passe par la régularisation de tous les sans-papiers, quoi. Parce que quand on a des papiers, on peut travailler. Quand on peut travailler, on cotise, on peut se soigner.
On se loge.
On n'est plus une charge pour l'État quand on travaille. Alors qu'actuellement, ça le fait du bien au gouvernement de jouer sur ce tableau-là, en disant que voilà, les étrangers, ils nous coûtent cher, quoi. C'est sûr, mais si on leur donne pas l'occasion de travailler, la possibilité de travailler. La plupart, ils viennent pas pour demander l'aumône, hein. Ils viennent parce que déjà ils ont pas vraiment le choix, et après ils ont envie de bosser, quoi, parce qu'ils ont envie de s'en sortir. Donc voilà. Je sais pas si c'est très clair.
Ben si, non, ce qui est très clair dans le discours, c'est qu'effectivement, la régularisation permet une insertion concrète dans le tissu social.
tissu social, avec bon, tout ce qui tourne autour du travail et des droits qui sont accrochés au travail, hein, et qui permettent à la personne de vivre, à la personne réfugiée de vivre, mais qui permettent aussi à cette personne de contribuer au bien collectif. Hein, on en parlait. Bon, voilà, ce serait aussi des cotisants supplémentaires pour les retraites des différentes personnes, n'est-ce pas?
Mylène, je te rejoins sur ton débat. C'est vrai qu'on n'est pas venu ici pour croiser les bras quand même. Franchement parlé. On est venu ici juste que nous tous, on a un petit métier quand même. Nous tous, on est... Il y a des diplômés parmi nous quand même. Franchement parlé. Moi, j'ai recensé au minimum 18 personnes qui ont leur permis poids lourd. Parmi les immigrés, 18. M'ont montré. Ils sont prêts pour se donner à fond. Aujourd'hui, si on obtient notre titre de séjour, notre papier, qui gagne? C'est la France. Tu payes tes loyers, tes taxes d'habitant. Avant de passer chez toi, tu passes ici. C'est la France qui gagne. On a choisi de venir ici. Mais il faut qu'on donne un peu de force quand même. C'est ça que vous me permettez de dire, la lutte de CMB, ça fait partie de ça. On demande notre droit.
Tiens, un moment, je ne sais pas si on a le temps, tu peux lire les objets de l'objet de l'association du CMB.
CMB, l'association qui défend les dignités et les droits des personnes immigrantes. L'association est pour l'objet de fournir les conseils juridiques ou les présentations de restauration, d'hébergement ou accompagner des soins médicaux assurant de vie digne descendant des étrangers ou tout autre aidant vivant présentant la dignité et l'intégralité physiquement de ce que soit leur statut. L'association rassemble des personnes adhérentes à ces objets sur le base laïque, humanitaire, œuvre à toutes les opinions. Respecter la charte et les droits de l'homme et de la femme et des enfants. L'association collabore avec toutes les personnes physiques ou morales, nationalités, étrangers, des actions visant à favorable l'intégration des immigrés, toutes par l'apprentissage de la langue française. L'association se donne des L'association donne pour, je vois pas, impératif de respect, je vois pas.
Il y a un problème d'éclairage.
Oui, on a un problème, d'éclairage, effectivement.
Il y a l'ombre des micros sur la feuille de papier.
Voilà, Momo était très mal placé, il n'arrivait pas à lire. Alors je vais reprendre donc peut-être un paragraphe en arrière, je ne me souviens plus. L'association collabore avec toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, dans les actions visant à favoriser l'intégration des immigrés, tout particulièrement par l'apprentissage de la langue française. L'association se donne pour impératif de respecter et de faire valoir l'égalité entre les hommes et les femmes. L'association se donne pour mission d'agir à l'échelle régionale en vue de sensibiliser l'opinion publique à la situation des immigrés et d'obtenir son appui dans les interventions entreprises à cet égard. Et dernier paragraphe de l'objet, l'association se réserve la possibilité d'exprimer toute revendication en rapport avec son objet et en toute indépendance vis-à-vis des forces politiques ou religieuses et par tous les moyens légaux à sa disposition. Voilà. Et excusez-nous, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait attention que la place qu'on avait donnée à Momo n'était pas éclairée.
Et que c'était écrit tout petit en plus.
En fait, il ne sait pas lire.
Non, on ne le croit pas.
J'ai perdu mes lunettes d'or quand même. premier jour que j'ai dormi dehors, quand même, j'ai plus de lunettes.
D'ailleurs, je fais un appel à un ophtalmos dans le coin qui est prêt à faire une consultation gratuite à Momo et un opticien qui l'offrirait sa première paire de lunettes françaises.
Et ça me fait plaisir, hein, j'attendais ça le 27 ans pour que tu me donnes ça comme cadeau d'anniversaire.
Je pense aux chaussures, moi. Ah, aussi, on cherche des chaussures de taille 48.
50 aussi, je sais, j'ai entendu.
Non, 48, 48. Oui, 40,
il y a une autre recherche.
Arrêtez de donner toutes les infos quand même.
On va finir par te reconnaître. Ouais, je voudrais juste en revenir à ce que disait Momo sur les qualifications des gens qui viennent ici. C'est vrai que, par exemple, si on prend l'Athénée Libertaire, les cuisines étaient réalisées par des migrants. Et que beaucoup d'SDF venaient chez nous parce que la cuisine était meilleure qu'ailleurs. Et c'est vrai que c'était très bon.
Là, tu te coupes pas. Hein. Tu sais que... excuse-moi, hein. Tu sais que partout à Bordeaux, c'est seulement Ténère Liberté qui donne deux repas.
Le midi
et le soir. Partout à Bordeaux métropole, c'est seulement Ténère Liberté qui assure les deux repas. Franchement parlé. Là, on tient un grand chapeau pour Ténère Liberté quand même, pour les bénévoles.
Oui. Pas 10 ou 20 repas.
Oui.
À un moment donné, c'était plus de 160 repas.
Oui, on est arrivé jusqu'à presque 170 à certains moments. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu aussi. Il a fallu rendre la bourse du travail. Alors, l'avantage de la bourse du travail, c'est que c'est justement la bourse du travail. C'est la CGT qui est là-bas. Et donc. Je pense qu'il y a eu un petit peu de pression du secrétaire général de la CGT auprès de Madame la Préfète pour récupérer sa bourse.
Ses bourses.
Non, ses bourses, je ne me permettrai pas. C'est Myriam qui m'a interrompu, je suis désolée. Et donc, ils nous ont appelé 48 heures avant pour nous dire que si on acceptait de libérer la bourse du travail le jeudi soir... Ils s'engageaient pour leur part à loger toutes les personnes qui étaient à la bourse du travail. Donc effectivement, pour les demandeurs d'asile, ils leur ont trouvé des lieux très éloignés de Bordeaux, pour certains. Même certains perdus dans des lieux qu'on... On ne savait même pas que ça existait avant. Il y a eu, pour ceux qui n'étaient pas demandeurs d'asile, il y a eu des propositions... Au 115, sachant qu'on a su après qu'ils étaient, du coup, ils remplaçaient des gens qui avaient leur chambre là-bas, que du coup, ces gens-là se retrouvaient dans la rue, évidemment. C'était. C'est pas extensible, hein, les places, hein, donc voilà. Donc, il y a eu 80 propositions, je sais pas si tout le monde les a acceptées, mais il y a eu 80 personnes qui ont été recensées. Et du coup, on a vidé la bourse du travail en 48 heures, le jeudi, en 48 heures. Ils sont venus faire ce qu'on appelle un diagnostic. Et voilà, comment on s'était engagé. Alors pourquoi on a accepté ? On a accepté d'abord parce que ça permettait quand même de trouver un toit à des personnes. Et également parce que c'était plus gérable. La bourse du travail, ça devenait très très difficile. Comme ça commence à être assez connu, il y a de plus en plus de gens qui arrivaient. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut pas mélanger les majeurs et les mineurs. Si vous trouvez dans un squat de majeurs des mineurs, la police est en droit de pénétrer dans ce squat et de fermer le squat. Ça a failli arriver à la bourse puisqu'on a eu un gros arrivage, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne saurais pas comment dire arrivage, ça fait un peu poisson. Voilà, on a eu beaucoup d'arrivées de jeunes Marocains mineurs et que ça a été très compliqué parce que c'était aussi compliqué de dire aux gens non, vous ne pouvez pas dormir là. Et les gens qui géraient le squat, qui étaient gérés par des bénévoles, mais également des migrants, dont Momo, ça a été très très dur pour eux la fin de la bourse du travail.
Pour te rejoindre, si tu touches à la bourse, tu me dis Momo, vas-y là-bas, je préfère. Non, parce que j'ai pris ma dose là-bas, hein, franchement, à parler. Ce qui explique qu'à la bourse, on s'est relevé un petit verre digital, il y avait à peu près 6. Une heure marocaine qui s'est venue. Mais du coup, on ne peut pas rejeter. On dit que vous passez la nuit ici. Il n'y a pas de souci. Et le lendemain, on dit de partir parce qu'on n'a pas le droit de garder ici. Bon, les négociés, ils sont partis. Et du coup, ils sont La France est bien renseignée. Hein. Une heure de temps après, on nous a appelé, la police nous a appelé pour nous dire que, écoute, il y a des mineurs dedans. Et on dit que oui, ils sont passés la nuit ici, mais ils sont partis. Et c'est pourquoi ça que les demandeurs d'asile, pas avec les mineurs, toujours on sépare les demandeurs d'asile et les mineurs. Les majeurs. C'est les majeurs. Ah bon? C'est vrai pas?
C'est les majeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dans un même squat avoir des personnes majeures et des mineurs. Les mineurs doivent être, puisqu'ils doivent être protégés normalement. Normalement, il ne doit pas y avoir aucun mineur à la rue. Légalement, c'est voilà, c'est légalement, ils doivent être tous être accompagnés et logés.
Pris en charge par le département normalement.
Et... Ok, en parlant de mineurs, moi, je vais un peu revenir en arrière. Nous sommes là, en tant que mineur, je ne peux pas parler que je vais du travail, mais je vais avoir la formation. Donc, on demande le gouvernement français de nous aider à nous former, à nous donner des métiers, parce que nous sommes là, peut-être la plupart d'entre nous ont beaucoup de soucis, ont beaucoup de courage. Donc, si nous gagnons le soutien, la plupart d'entre nous va servir la France. Bien sûr, il va se servir en personne, mais il va servir la France encore, parce que il va payer son logement. Il va contribuer aux différents impôts et autres. En plus, il va quand même servir la France. Donc, nous demandons de nous aider à nous former, à nous aider à avoir les logements, tous les soutiens en un mot. Merci.
Ben, puisque je crois, Philippe, qu'on n'aura pas effectivement le temps de faire l'éphéméride, je vais juste utiliser une partie de l'éphéméride que j'avais. Hein ? Voilà. Ah, mais il était déjà passé. Voilà. Mais voilà, je fatigue moi aussi. Mais non, mais ça me fait penser. C'est ce qu'a dit Myriam et ce que vient de dire Ali. Ça m'a fait penser à la situation d'un monsieur que vous connaissez forcément de nom, qui s'appelle Mimo Lucano, qui est un maire d'un petit village de Calabre, si je me souviens bien. Oui, voilà. Donc, en Italie, qui a été arrêté. Donc, ça fait un an. C'était en octobre 2018, qui a été arrêté pour aide à l'immigration clandestine, alors que ce monsieur, en fait, est maire d'un petit village. Où il a décidé, un petit village qui se mourait, c'est-à-dire toute la population qui partait pour aller vivre ailleurs, donc il avait tout un tas de maisons libres, etc. Et donc, il a fait de son village un modèle d'accueil où il a combiné intégration des réfugiés, donc c'est ce que tu disais, apprendre, voilà, se former, apprendre un métier, ou utiliser les compétences qu'on a déjà, suivant son âge. Voilà, il est donc... pour relancer l'activité de son village. Donc il a prouvé que, voilà, c'était possible. Sauf qu'effectivement, ben, l'État italien, évidemment, ne l'a pas raté. Voilà, donc si vous voulez connaître l'histoire de ce monsieur, il s'appelle Domenico Lucano.
Voilà, et il y a un très beau documentaire qui retrace l'histoire de ce village et l'initiative de... du maire. Le documentaire s'appelle Un paese di Calabria. Voilà, il est de Chouaiello et Catherine Catella, dit de mémoire, et retrace toute cette histoire.
Et qui sont elles-mêmes deux migrantes qui ont quitté ce village.
Filles de migrants.
Oui, filles de migrants. Et elles ont quitté ce village qui a quasiment périclité, et là qui a retrouvé, ce que tu disais, une vitalité grâce à cette nouvelle migration qui est arrivée et qui a remplacé ce qu'est les Italiens qui étaient partis, notamment en France ou ailleurs, ou aux États-Unis, en quittant tous ces lieux de misère à l'époque qui était la Calabre.
Oui.
Est-ce qu'on fait un tour de conclusion, ou est-ce que je passe à la musique maintenant? Vous le faites après. Bon, je passe la musique et puis comme ça vous vous préparez pour la conclusion.
Wo anu segela anu torola anu nyanina anu segela anu nyanina. t'arrêter une nuit où le froid jouait du rasoir. Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur. Je me suis planqué comme un renard train d'atterrissage d'un avion, dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé fond des corridors, travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin, traqué par la police. Silencieux, au bord du précipice. Ta fleur de peau qu'on explique, la forêt sanglante et l'horreur.
Si j'arrête l'or, c'est l'Afrique, vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. Des musiciens d'Afrique, faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors,
au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice.
Voilà, vous écoutez Achaïr à l'émission de Pollinisation Libertaire. Et donc, bien, une petite parole de conclusion pour chacun de nos invités, chacune de nos invités.
Pour ma part, je pense que la phrase de conclusion qui va parler à tout le monde ici, c'est des papiers et un toit pour toutes et tous.
C'est parfait. Et pas de cas par cas aussi.
Je reprendrai une chanson, c'est pierre par pierre,
mur par mur,
détruisons
les centres de rétention.
Moi, je vois, mais c'est hein, franchement parler, j'ai pas les mots. Et franchement, on profite de cette émission de remercier tout le monde. Et vous avez donné l'occasion de parler de la naissance de CB, c'est un grand plaisir. Et on est là avec vous, on reste là avec vous. Mais sans la lutte, on ne vit pas. La lutte continue. Et je rejoins Frédéric, on toi pour tous. Pour moi, je dis que c'est un slogan. Papier pour tous. Si tu es en toi, tu n'as pas de papier, tu fais quoi? Tu vas toujours dit Marina, donne-moi un club. On veut des papiers. On veut gagner notre dignité, notre personnalité. On est des Bordelais. vu qu'on est à Bordeaux et on restera des Bordelais.
Oui, parce que ça commence à me coûter cher.
Bon, moi, je vais remercier l'ensemble des bénévoles qui évoluent à Bordeaux, qui ne cessent de nous soutenir. En plus, je demande au gouvernement français de les aider et d'avoir les opportunités pour nous soutenir de plus. Merci à tout le monde.
Je crois qu'il est perdu.
Non,
il
n'est pas perdu.
Non, il cherche le jingle de l'agenda.
Non, non, c'est celui de la rubrique internationale.
Voilà. A-t-on besoin d'un jingle ?
Ça y est.
Progrès, c'est à toi.
Oui, alors, j'ai été désigné à l'unanimité. Donc, juste un commentaire sur la Grèce, puisque si vous allez sur le site de Yulantas, Yanis Yulantas, que nous connaissons tous ici, qui est à la fois cinéaste, qui écrit dans Ciné Mensuel, qui est aussi un des acteurs principaux des convois solidaires vers la Grèce et Athènes. Bien, il appelle à la résistance. À la résistance de quoi ? La résistance pour le quartier d'Exarchia, qui est un quartier qui est très avec beaucoup de centres autogérés, d'espaces autogérés, avec des centres d'accueil pour les précaires, les réfugiés ou migrants, selon l'appellation qu'on va leur donner. Il fait un appel donc à la résistance. Alors pourquoi aujourd'hui ? Ben parce que tout simplement, lors de sa campagne électorale, le dernier des élus, je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est, je crois... avait promis que en un mois il liquiderait Exarchia, qui est déjà dans le collimateur de tous les hommes politiques, hein, parce que c'est pas parce qu'il est de droite, voire plus proche de l'extrême droite que de la droite, que les autres aussi souhaitaient ça, mais personne n'osait prendre les devants pour détruire Exarchia. Donc il y a près de 50 squats, centres autogérés, etc., etc. Et lui, il s'est senti obligé, à la mi-août, fin août, de tenir sa promesse et donc de lâcher les chiens sur Exarchia. Donc là, Exarchia a été complètement encerclé par les forces de police, les bus de CRS, les jeeps de la police antiterroriste, l'OPKE, les voltigeurs, des membres de la police secrète, un hélicoptère et plusieurs drones, bien sûr, comme il se doit, il faut être ultra moderne, on utilise aussi les drones. Donc voilà, il y a une partie d'Exarchia qui a été investie par la police, mais le reste semble résister encore. Beaucoup de squats résistent et pour l'instant, ce n'est qu'un. On peut penser et espérer que ce n'est qu'un coup de sonde qu'a envoyé ce Premier ministre pour essayer de tenir un tant soit peu sa promesse, et il faut espérer qu'il ne réussira pas à évacuer ce lieu qui est un lieu absolument mythique de l'Athènes, qui rappelle les berceaux de la démocratie, dit-on aussi, et par ici, sauf que il y a longtemps qu'on a un peu oublié que ce berceau de la démocratie, il se trouve encore peut-être du côté d'Exarchia. Tenons-nous au courant, des suites qui se passeront autour de ce quartier d'Athènes.
Et on pourra retrouver le texte de Yanis Yulontas sur le site, bien sûr, que nous vous rappellerons à la fin de l'émission.
Oui. Alors juste une petite remarque que j'oubliais, c'est que lorsque les squats sont fermés par la police, on envoie les gens dans des camps. Des camps surpeuplés, des camps où ils sont enfermés, puisque maintenant il n'est plus question qu'ils sortent de ces camps. Voilà, comme l'île de Lesbos, qui sont des camps absolument atroces. Quoi, voilà. Et nombreuses familles avec des enfants sont expédiées vers ces camps de rétention.
Ah merde, c'est pas bon. L'agenda militant. On lance l'agenda, donc ce sera le dernier morceau de musique promis à enfin. Et donc on commence par une manifestation qui aura lieu demain, soi-disant. C'est une manifestation de retraités pour l'augmentation des pensions, à l'appel d'un certain nombre d'organisations, à partir de 10h devant le palais de justice, rue des Frères Bonnier. Donc, l'objectif est d'inaugurer la place des droits de l'homme, le parvis des droits de l'homme en place des droits des retraités. Et il y aura une manifestation donc, qui partira par l'hôpital Saint-André jusqu'à l'agence régionale de santé, place Rodez. Voilà. On continue. Eh bien, à ce moment-là, on appelle il y a un appel à une manifestation samedi 12 octobre à 14h, place de la Bourse à Bordeaux, une manifestation pour arrêter la barbarie de la Turquie. C'est une adresse aux amis du peuple kurde. Le dictateur Erdogan menace d'envahir le Rojava. Les médias commencent à s'en faire écho et de supprimer les Kurdes de la carte. Donc, merci de vous exprimer pour appeler la France à réagir et à arrêter la barbarie de la Turquie. Et peut-être arrêter de donner de l'argent à la Turquie. Je continue aussi si vous venez à la suite, sinon moi je m'arrête. Le 19 octobre. Moi je continue une manifestation. Samedi 19 octobre, il y a une manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Il rentrera 4 jours après dans sa 36e année de détention en France à Lannemezan. Donc il y a une manifestation qui partira de la gare de Lannemezan, donc dans les Hautes-Pyrénées, jusque devant la prison. L'objectif c'est de lui faire entendre notre solidarité. Ce militant libanais injustement maintenu en prison, le comité Libérons Georges Trentron organise un départ en bus depuis la place Ravezi à 9h et un retour vers 22h, donc avec une participation aux frais de 10€ minimum. Voilà, donc vous pouvez réserver en écrivant 8 rue de la Course à l'ordre du comité Libérons Georges Trentron et en mettant le chèque à l'ordre de la Clé des Ondes. Voilà, et on en reparlera de Georges Abdallah dans les concerts et spectacles de soutien et de films.
Voilà, après le temps des manifestations, le temps des débats et des spectacles, donc du vendredi 4 octobre au samedi 12 octobre, alors je ne vous donnerai pas tout le détail, mais de 19h30 à 20h30, festival comme un grondement, travail et éducation, balance ton maître et ton patron. Tout ça est organisé en fait avec le syndicat Asso 33, l'ABC de Blanquefort. Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est que l'ABC de Blanquefort.
Une association de Blanquefort Culture, sans doute.
D'accord. Voilà, donc Association Blanquefort Culture, dit Philippe, et en partenariat avec l'UL-CGT Bordeaux Centre, donc là des amis qui nous connaissent bien, et la DRJ-SCS Nouvelle-Aquitaine. Je vais pas lire l'ensemble de toutes les manifestations parce qu'il y a des choses très très intéressantes.
Pardon Fabienne, c'est ouais. Juste dire qu'en fait c'est l'UPB qui organise ce festival. C'est le festival de l'UPB,
l'université. Tu fais bien de le rajouter parce que
l'université populaire de Bordeaux, absolument. En partenariat avec toutes ces associations.
Ok, d'accord.
C'est pour les 10 ans de l'université populaire de Bordeaux d'ailleurs.
Voilà. Voilà, donc vous retrouverez tout le détail parce qu'il y a effectivement un thème par jour, hein, voilà, et c'est particulièrement intéressant. Et il y a des lieux différents aussi. Oui. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de l'émission. Le lundi 7 octobre à 19h et tous les lundis. Ah oui, alors là, on n'est plus dans les spectacles, par contre. Là, je suis désolée. Il me manque le titre. Voilà.
Déjà le 7 octobre. Faire un zoom sur certains événements de ce festival comme un grondement.
C'est aujourd'hui.
Demain, mardi 8 octobre, il y a un atelier de désintoxication de la langue de bois. Voilà, c'est de 19h à 21h à Halle des Douves. Mercredi 9 octobre, Toujours Aldé Douve, c'est à 18h, les dérives du service civique ou comment mettre au pas la jeunesse. C'est une conférence de Florence Inadaden, docteur en sociologie. Et le jeudi 10 octobre, une conférence sur l'éducation. Là, c'est au campus Victoire. Conférence sur l'éducation de Ludivine Bantigny, qui est assez connue sur ces thématiques. Également, il y a un zoom que l'on voulait faire. Mais je ne le vois plus. Bon.
Le 12.
Le 12. Oui, c'est le jour du grondement, le travail associatif.
Ou pourquoi pas, il y a le cri du peuple qui chante.
Ah, mais voilà. Mmh. Mais oui, mais bon, là, on ne trouve plus.
Mais ça, enfin, c'est bon, voilà. À 17h, du 17h à 23h, la kermesse politique, le cri du peuple.
Voilà. Bon, ça, c'était juste un zoom par-dessus le festival de l'UPB.
Ok, bah après, effectivement, on va au vendredi 11 octobre, parce que les deux autres dates qu'on avait, c'était aujourd'hui, donc c'est un peu... voilà. Vendredi 11 octobre, donc je crois que Philippe en a parlé tout à l'heure, tu l'as dit, il y a à 20h, la soirée de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, au Samovar. Donc le Samovar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 18 rue Camille Sauvageau, mais je pense que autour de la table, presque tout le monde connaît. Le dimanche 13 octobre, alors là, je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un d'autre.
Si, on pouvait dire que c'était l'orchestre poétique d'avant-guerre qui organisait la soirée de soutien. Enfin, qui animait la soirée de soutien.
D'accord. Ensuite, dimanche 13 octobre, alors là, on est sur les concerts à l'Athénée Libertaire. Alors là, vous allez excuser mon accent parce que je ne le connais pas. Là, c'est pas grave. Donc, alors, il y a trois groupes qui vont passer donc à l'Athénée Libertaire dimanche 13 octobre à partir de 19h. Le 16 octobre, il y a un apéro syndical et convivial. Donc, Philippe, tu me dis où c'est rue de la Course aussi.
C'est rue de la Course aussi. Enfin, c'est rue de la Course. C'est rue de la Course. C'est Assaut, l'association, le syndicat du secteur associatif qui organise un apéro voilà, de rencontre.
Ensuite, le 16 octobre.
Toujours.
Oui, le 16 à l'Athénée Libertaire, à 19h, une rencontre avec Floréal Romero autour de son livre qui va sortir la semaine prochaine, je crois, la semaine où il vient, Agir ici et maintenant, penser l'écologie sociale de Murray Bookchin. Alors, c'est quelqu'un qui est un paysan, un philosophe andalou, que certains connaissent bien. La préface de son livre est de Pinar Selek, dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Et ce sera sûrement un entretien passionnant. Il est déjà venu cet été invité par Bernard Lubat
à
Uzest. Voilà. Nous l'avions rencontré. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie de penser l'écologie aujourd'hui à partir de notamment de Bookchin, mais aussi de tout ce qui relève de l'anarchisme et du communisme libertaire.
Fred, vous voulez rajouter une date ?
Oui, je vais me permettre de rajouter une petite date. C'est le 13 octobre sur la commune de Belin-Belier, sur le Val de l'Air. Un rêve co-organise avec le Café en l'air une journée sur la solidarité qui s'appelle Solidarité et toi, avec à la fin de toi un T entre parenthèses. On va proposer des rencontres et des échanges, des débats, expos, photos, concerts le soir. Et en fin d'après-midi, pardon. Et au milieu, un repas qui est organisé par nos amis syriens de Syrie Démocratie 33.
Mm-hmm. Tu nous rappelles l'endroit ?
L'endroit, donc, c'est à Belin-Belier. C'est sur la Nationale 10, plein sud, par rapport à Bordeaux.
Là où il y avait un gros virage et plein d'accidents quand j'étais petite.
Le 13 octobre. Il y a toujours les virages. Et c'est le 13 octobre, dimanche prochain.
Et le 80 à l'heure, plus d'accidents.
On continue sur le 16 octobre, c'est un débat sur prison et justice. C'est organisé toujours à la voûte, à la brasserie des Halles, de 21h à 1h, c'est toujours l'UPB. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a le ciné-club Blues, Anton's Home of the Blues, organisé par Bordeaux Blues, avec l'animateur Thierry ici présent. À l'Athénée Libertaire, donc à 20h, avec beaucoup de chanteurs, mais j'ai pas l'accent de Thierry. Donc
si venez on peut... nombreux.
Voilà.
En plus, c'est gratuit.
C'est gratuit.
Il dit rien.
Non, on paye maintenant.
Bon. Bon, on verra bien.
Toujours le 24 octobre, alors en concurrence, quasi à 20h30, il y aura une soirée de soutien encore à Georges Abdallah.
Encore ?
Oui. Donc là, c'est après la manifestation, mais c'est Pierre Carle qui a fait un film We Want George Ibrahim Abdallah in Jail. Donc, comme toujours, ce film n'est pas fini. Les films de Pierre Carle, donc, il fait toujours appel à souscription pour les financements. Donc, il présente en l'état. Mais il sera visible et donc il y aura un débat. Et cette citation, We want George Ibrahim Abdallah in jail, c'est la reprise de la sommation d'Hillary Clinton au gouvernement français pour exiger qu'il ne soit pas libéré. La peine qu'il aurait dû encourir en 1984, c'était 10 années de prison. Donc nous sommes 26 années après, il a passé plus d'années en prison qu'en liberté. Voilà, donc pour un acte... militaire, on va dire, puisque son pays était envahi par les États-Unis et Israël, et ce sont les personnes en cause qui ont été accusées de complicité. Passons, nous reviendrons là sûrement là-dessus. Ensuite.
Vendredi 25 et samedi 26 octobre, alors c'est un festival de courts-métrages documentaires autour de la question de l'exil et de l'immigration en Europe. Le festival s'appelle Car Court et il est soutenu par un programme, l'Europe pour les citoyens. Il est organisé dans 6 pays d'Europe, de manière quasi simultanée. France, Italie, Espagne, Portugal, République tchèque, Bulgarie. Ça va se passer au centre Simone Signoret à Canéjean, donc les 25 et 26 octobre. Le programme sera bientôt à disposition. Et il y a une soirée d'ouverture la veille, le jeudi 24. Jeudi 24, mais si on y va, on ne peut pas... être à l'Utopia, donc voilà. Bon, ça dépend. Faites votre choix. Soirée d'ouverture.
C'est pas le 25 ?
Avec la mécanique, le film du 24 et la mécanique des flux de Nathalie Loubert, qui est un très bon film documentaire sur justement comment l'Europe se protège en forteresse des flux migratoires.
Et pour terminer, donc, les activités du mois d'octobre, les activités artistiques, dont jeudi 29 octobre à 20h, un concert punk rock à l'Athénée Libertaire. Et le dimanche 3 novembre, un autre concert toujours à l'Athénée Libertaire à 19h cette fois-ci. Le concert, le titre, c'est Hyperculte. Donc, moi, je ne connais pas, mais c'est pareil. Là aussi, vous allez trouver tout le détail sur le site de l'émission. Et puis, je pense que du coup, on peut, si personne n'a d'autres dates à rajouter concernant octobre, on peut s'arrêter là, puisque notre prochaine réunion, du coup, sera le lundi 4 novembre.
Notre prochaine émission.
Qu'est-ce que j'ai dit, réunion ?
Réunion.
Ah ben j'aime
oui,
ça, finalement.
Oui, mais nous serons réunis pour cette émission.
Voilà.
Oui, mais donc... Pardon.
Voilà. Le tour de l'agenda.
Gurunyeto sote bijom beti seile ayamayalapi. Gurunyeto sote bijom beti seile ayamayalapi. Omoroji fayate la ayamayalapi. Fayate joto ayamayalapi. Omoroji fayate la ayamayalapi. Fayate joto. Fayate joto, ayam maya rabi, ayam maya rabi. Guru nyeto sote bijom beti seile, ayam maya rabi. Guru nyeto sote bijom beti seile, ayam maya rabi. Guru nyeto sote bijom beti seile, ayam maya rabi. Guru nyeto sote bijom beti seile, ayam maya rabi. Oh, moroji fayate la, ayam maya rabi.
yama ya rabbi.
Voilà, eh bien, donc, on se quitte. Voilà, on se quitte, on se dit au revoir. L'émission touche à sa fin. Donc, c'était la 214e édition aujourd'hui. Et d'Achaïra, d'ailleurs. L'animation a été assurée par Esmeralda.
Oui, bonsoir.
Fabienne.
Bonsoir.
Progrès.
Bonsoir.
Thierry.
J'ai rien fait.
Si, si, on t'a reconnu. Philo, un grand merci à nos invités.
Merci à vous. Hein.
Oui, merci à vous surtout.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bah, bah, merci à moi.
Voilà, bah, écoutez, merci d'avoir assuré cette émission. Nous remercions aussi André pour sa chronique de la désobéissance. Un salut à Vassili aussi, à qui on a passé en hommage la chronique internationale. Voilà, et donc nous vous invitons, nous disons à bientôt dans les mobilisations, les luttes, ben, la vie. Quoi. Vous pouvez retrouver l'émission soit en rediff le vendredi qui succède le direct et cela à midi, ou en podcast sur le www.lacdo.org. Pour l'instant, dans la rubrique programme, vous cliquez sur Achaïra et vous pouvez aussi la retrouver sur le site du Cercle, cerclelibertairejb33.wordpress.com. En plus, le programme y sera détaillé, vous aurez les liens sur les chroniques écrites. La prochaine d'Achaïra, ce sera le lundi 4 novembre 2019, autour de 20h10, toujours sur la clé des ondes 90.10, et ce sera la 215e émission. Alors d'ici là, portez vos luttes avec conviction et détermination.
Il y a un Facebook, sinon, hein, pour le collectif des migrants de Bordeaux. Vous pouvez suivre toutes nos aventures.
Ok, il y a un Facebook du collectif des migrants de Bordeaux. Là-bas, ça se passe tous les messages. Mais je vous dis merci beaucoup d'avoir donné CMB cette occasion. Et CMB remercie toutes les associations de Bordeaux Métropole, sans exception. CMB remercie tout le monde. Merci à Marina.
Il n'y a même pas une toute petite exception.
Ah non. Merci à tout le monde.